France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans la communauté LGBT en Russie ce soir.
Первое. Мы предлагаем установить запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений.
Ce député de la Douma, le 27 octobre 2022, qui dit ceci, nous proposons d'établir une interdiction de la propagande des relations ou des préférences sexuelles non traditionnelles, quel que soit l'âge. Fermez les guillemets, on est en 2022, il y en a eu d'autres avant et probablement aussi d'ailleurs, y en aura-t-il après. Bonsoir Sergueï Chikhalov.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes russe, installé en France depuis 2016. Est-ce que vous racontez dans votre livre qui s'appelle Espèce dangereuse, publié aux éditions du Seuil, ce que vous racontez, c'est combien vous avez cru en Russie qu'on pouvait être gay sans culpabiliser, sans se cacher. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Nous entendrons un reportage de Sylvain Tronchet qui est à Moscou en ce moment. Et c'est ça qui est le plus émouvant, Sergueï Chikhalov, dans votre livre. Vous y avez cru sans souci. Vous dites même cette phrase à un moment, on existait à la télé, à la une des gros magazines nationaux, dans la rue, au bureau, dans les bars, en soirée, chez des amis d'amis. C'était comme partout ailleurs. Jusqu'à quel point pensiez-vous que c'est bon? On avait réussi. Est-ce que vous avez cru ça, réellement?
Alors, je crois que je l'ai vraiment cru. Ça peut paraître complètement surréaliste aujourd'hui, surtout en me relisant aujourd'hui pour parler de mon roman. Je me dis que la Russie dont je parle peut paraître complètement surréaliste, et pourtant, elle a été bien réelle. Que ce soit complètement ouvert d'esprit, que ce soit complètement libertaire, non, peut-être pas, mais il y avait beaucoup de tolérance. Et en fait, la seule chose que les gens se sont dites, c'était on est toléré, on est accepté, ça nous suffit, on veut pas plus.
Vous le dites, hein, la société russe, effectivement, c'est pas toujours simple auprès de certains, mais effectivement, au moins, j'allais dire à l'affichage, les choses commençaient à fonctionner. Ça commence quand, cette ouverture, le moment où on comprend qu'on peut arrêter de se cacher?
Alors, je pense que ça a commencé dans les années 90, juste après l'éclatement de l'Union soviétique, donc sous Yeltsin, il y a eu cette vague de liberté complètement inouïe qui a apporté aussi beaucoup d'insécurité pour la société russe et pour l'économie russe également. Et puis dans les années 2000, il y a eu cette ouverture d'esprit, il y a eu tout un tas d'artistes, de photographes, de peintres, d'écrivains et de cinéastes qui ont commencé à oser aborder des sujets qui avaient toujours été interdits dans la société russe. Et c'est quand les artistes français, Pierre et Gilles, ont commencé à venir en Russie pour présenter une rétrospective de leur peinture, de leur photographie, dans l'un des centres d'exposition principaux de Moscou, le manège, où les gens ont commencé à se dire, ça y est, on peut être libertaire dans l'art et on peut être libre dans notre expression.
Vous parlez du concert de Mylène Farmer aussi, dans son Millennium Tour, ça a été un vrai grand moment. Vous parlez de George Michael qui vient en concert ici, ça veut dire que non seulement vous le croyez à l'époque à Moscou, mais nous tous autour, on se dit aussi, il y a donc une nouvelle Russie et les artistes viennent à ce moment-là. C'est ça qui est dingue.
Tout à fait, il y avait des artistes occidentaux qui venaient, l'Occident était perçu comme un allié culturel. Il y a eu l'année culturelle croisée France-Russie, je crois, en 2010. Plein de films de cinéastes français et francophones, québécois, comme Xavier Dolan, par exemple, qui passait dans tous les festivals de films de Moscou. Et puis, il y a eu aussi les artistes locaux qui ont commencé à oser aborder des sujets interdits. Il y a eu le groupe Tatou, qui a quand même passé beaucoup de temps à s'embrasser à la télé pendant toutes les émissions principales à la première chaîne fédérale. Et c'est un groupe de deux lesbiennes qui n'ont jamais été lesbiennes
en réalité. Alors, j'allais dire, vous allez nous le réserver pour la fin, mais en effet, vous avez découvert après, quand tout s'est refermé, qu'en fait tout ça était du marketing, effectivement. Mais c'est fou d'imaginer qu'il pouvait y avoir justement du marketing autour de l'homosexualité à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez, Sergueï Chikhalov, de vous? À quel moment, vous aussi, vous vous dites « je peux sortir tranquillement et comme tout le monde ?»
Oui, je crois qu'à l'âge de 16 ans, ça devait être dans les années 2000, peut-être 2001. J'ai toujours fait profil bas, parce que je suis quelqu'un de discret, quelqu'un de réservé, mais j'ai jamais eu peur de sortir, j'ai jamais eu peur de m'afficher parce que c'était pas pénalisé, c'était pas pénalisable. Aujourd'hui, j'imagine même pas ce que doivent ressentir les garçons et les filles de 13 ans, de 14 ans, qui découvrent leur sexualité et qui sont obligés de vivre cachés et qui ne peuvent pas en parler parce que ce qu'ils ressentent, l'amour qu'ils veulent vivre est considéré comme un amour délinquant.
Les générations, ça compte, et on vous dites dans votre livre, on imagine aussi la génération d'avant, celle de Brejnev et compagnie, et vous dites on vivait parfois mal cette levée de verrou soudaine, c'est un peu comme sortir de la famine, si on vous donne trop de nourriture d'un coup, vous pouvez en mourir.
Oui. Tout à fait, parce que il y a eu des générations d'anciens soviétiques, Homo Sovieticus, qui ont découvert à l'âge de 60 ans qu'ils pouvaient vivre un amour libre, et finalement cet amour n'aura pas duré longtemps, parce que les hommes qui ont 60, 65 ans en Russie, vu l'espérance de vie en Russie, ne sont pas tout jeunes.
Après, dans cette, vous l'avez dit, il y a le début des années 90, et puis il y a toute cette période où c'est Medvedev qui dirige le pays, Poutine est son premier ministre. Il y a ce moment, mais au fond, ça correspond à l'ouverture de toute la Russie. On a cru à un moment qu'on pouvait être opposant à ce moment-là en Russie. La grande époque Navalny, c'est aussi celle-là. C'est dans tout ce bouillonnement-là que vous vivez, vous, à ce moment-là, et qu'on pense en effet qu'une autre Russie est arrivée.
Tout à fait. En fait, dans mon roman, je dresse ce portrait de la société russe à travers le prisme des personnes homosexuelles. Mais en soi, cette fermeture, elle a coûté cher non seulement pour la communauté gay, entre guillemets, mais aussi pour toutes les autres personnes qui avaient aspiré à vivre dans une Russie autre qu'une Russie stagnante.
Est-ce que vous allez nous raconter comment vous êtes arrivé en France ensuite, mais vous le dites à un moment dans votre livre, comment est-ce qu'on aurait pu savoir que ce qu'on vivait là, au fond, nous aiderait à vivre après? Parce que vous avez tous, j'imagine, dans un coin de tête, à un moment, on a pu se montrer, la société russe a été différente, donc ça veut dire que ça peut revenir aussi, non?
J'espère que ça pourra revenir un jour, parce qu'en tout cas, je pense que les Russes, je ne pense pas qu'ils soient plus homophobes que les Français ou les Européens, mais les Russes ont très très peu de pensées critiques politiques. Et en fait, ils suivent souvent le discours officiel annoncé par leur État.
Parce qu'aujourd'hui, être gay à Moscou, c'est devenu particulièrement dangereux. Toute la communauté vit dans la peur, c'est ce que va nous raconter.
C'est un délit.
C'est un délit, absolument. C'est ce que va nous raconter Sylvain Trochet. Les choses se sont particulièrement aggravées, d'ailleurs, depuis la guerre en Ukraine, parce que ces vieilles valeurs traditionnelles que prône la Russie, on les met face à un Occident décadent et perverti. Les décisions de justice donc se succèdent effectivement depuis un an. La communauté LGBT est obligée de se planquer. Écoutez-le, le reportage de Sylvain Trochet.
La vie de Yann Dvorkin a basculé le 30 novembre dernier quand la Cour suprême russe a classé extrémiste le mouvement international LGBT. Personne ne sait ce qu'est ce mouvement, mais Yann Dvorkin, directeur du Centre T à Moscou, une association d'aide aux personnes transgenres, a bien compris que si un juge décidait qu'il en faisait partie, il risquait 10 ans de prison. Alors il a fui la Russie.
J'ai tout de suite compris dès que j'ai lu la nouvelle. À la télévision, il citait le travail du Centre T en parlant d'une organisation extrémiste. Et nous sommes partis avec mon mari littéralement après l'annonce, sans attendre le tribunal parce que j'avais le sentiment d'une menace.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les lois s'accumulent. Interdiction de la propagande LGBT en novembre 2022, interdiction des transitions de genre en juillet dernier. La décision de la Cour suprême a définitivement ouvert les vannes de la répression. Désormais, toute la communauté est visée, même dans ses cercles privés, comme le montre ce reportage de la chaîne de télévision REN-TV, diffusé en février dernier.
Dans la région de Leningrad, des agents ont interrompu une fête provocatrice dans une maison de campagne. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs dizaines de jeunes gens qui n'ont pas pu déclarer immédiatement quel était leur sexe. Les détails avec Elisabeth Vernick.
Des policiers cagoulés, armés, font irruption au milieu d'un anniversaire. Les mains en l'air, crie-t-il. Bilan de l'opération, quelques médicaments saisis et un drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT interdit en Russie. On ne sait pas s'il y a eu des poursuites pénales, mais le signal est clair pour toute la communauté. Genia, un jeune transgenre de Moscou, admet qu'il a peur désormais quand il sort.
J'ai peur de porter certains vêtements. Quand tu sais qu'une fille a été condamnée à de la prison pour des boucles d'oreilles arc-en-ciel, tu te dis « Oh mon Dieu, maintenant, ça peut m'arriver aussi ». Il faut être prudent quand on parle à des inconnus, parce que quelqu'un peut te sembler sympathique et puis hop, il se passe quelque chose. Et dans ce cas, tu seras moins bien protégé à cause de ces lois.
Un climat de peur entretenu par la délation, pratiquée jusqu'au plus haut niveau. Le mois dernier, le député de la Douma, Alexandre Kinstein, a publiquement désigné le ministre de l'éducation de sa région, de Samara, qui entretient, selon lui, une relation homosexuelle avec un collaborateur en publiant des photos des deux hommes en vacances.
Le lobby gay de la région de Samara a mis ses pattes arc-en-ciel sur les enfants. Et c'est effrayant. De telles personnes ne devraient pas s'approcher de nos enfants. Les personnes qui élèvent nos enfants devraient promouvoir les valeurs traditionnelles de la Russie. Vous n'êtes pas d'accord ? Partez à l'étranger.
Le ministre a nié être gay, mais il a démissionné. Partez si vous n'êtes pas content, dit Kinstein. C'est le choix qu'ont fait de nombreux membres de la communauté LGBT. Vlad participe à des shows de drag queen à Moscou, une activité de plus en plus risquée dans la capitale. Il a déjà été agressé à la sortie d'un spectacle.
L'avenir en Russie, je ne le vois pas brillant et heureux. Ce que je veux faire dans la vie, ce que j'aime vraiment, je ne peux pas le faire normalement. Je ne peux pas non plus écrire sur les réseaux sociaux. Je ne peux donc pas m'imaginer en Russie dans le futur avec les lois actuelles.
Depuis son exil à l'étranger, Yann Dvorkin du Centre T continue ses consultations de psychologue à distance. Il raconte que ses patients vont mal, certains font des tentatives de suicide. L'avenir de la communauté LGBT russe semble totalement bouché. Et tous se demandent quelle sera la prochaine invention du pouvoir pour accroître la répression.
Et merci à Sylvain Tronchet pour ce reportage. Sergueï Chikhalov, je vous ai vu rire parfois d'un rire nerveux,
oui,
tellement c'est grotesque.
Parce en que fait. Tellement c'est absurde et on se croirait vraiment au Moyen-Âge.
Après, quand on entend cette drag queen qui parle là dans le reportage de Sylvain, il faut être sacrément courageux pour continuer à sortir.
Oui, et je pense que les gens qui restent là-bas sont très très courageux. Les gens qui osent encore faire des spectacles de drag ou autre chose, ils sont très très courageux.
Vous écrivez dans votre livre « Quand est-ce que le vent a tourné ?» On n'a pas vraiment fait attention, lorsqu'on se croit heureux, on laisse passer les choses. Et vous dites « ça s'est fait finalement rapidement, ça a été une dégringolade ».
Oui, tout à fait. Et je crois que malheureusement, dans toute société qui se croit libertaire et où on a l'impression d'avoir acquis toutes les libertés, au final, les libertés restent des choses très fragiles. Mmh. Et il faut les chérir, il faut les défendre, il faut les protéger. Heureusement qu'en France, la société est sensibilisée, on essaie encore de le faire. Mais c'est vrai qu'en Russie, les gens n'ont jamais appris à défendre leur liberté. Mmh. Et c'est pour ça que ça s'est passé aussi vite, de manière aussi dramatique.
Vous vous souvenez, vous, du moment où vous vous dites « je ne peux pas rester, il faut rentrer ».
Oui, quand j'ai entendu le chef de tous les médias russes dire à la télé que les gays et toutes les personnes homosexuelles devraient être interdites de dons d'organes, parce que ce sont les organes qui ne sont pas utilisables, réutilisables. Mmh. Et il faut brûler les cœurs.
Mmh. Et là, vous dites, c'est bon.
Et là, je me suis dit, je ne me vois pas du tout évoluer dans cette société, que je sois homo ou pas.
Sergueï Chikhalov, ça s'appelle Espèce dangereuse. C'est un roman publié aux éditions du Seuil. On vous remercie vraiment chaleureusement de votre passage chez nous. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à Tahiti sur une vague et même dans la vague aussi mythique que dangereuse, celle que surferont les athlètes des JO. C'est pas une vague d'ailleurs, c'est la vague et c'est Margot Bédé qui va nous le raconter. Pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel commence avec vous, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Kenya, la star du marathon Eliud Kipchoge, victime de menaces de mort.
Le Monde à 18h50 et Claude Guibal, bonsoir Claude.
Bonsoir Fabienne, on ira en Égypte qui pourrait bien finir par accepter de prendre des réfugiés palestiniens sur son sol alors qu'elle n'en a vraiment, mais vraiment pas envie.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Salut Corinne.
Bonsoir. On s'intéresse aujourd'hui à l'une des plus vieilles sagas au cinéma. Zira, Cornelius, César, les singes sont de retour et c'est la 10e fois.
Allez, un jour dans le monde, ça continue. Le tour de la planète croise la route de Lana Del Rey, Blue Skies, sur France Inter.
Smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a
bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Puisque c'est jour de flamme olympique aujourd'hui, nous sommes à Tahiti, devant le spot choisi pour l'épreuve de surf des Jeux cet été. Dans le village de Teahupo, au bout de la presqu'île de Tahiti, entre lagons et montagnes. Vous l'avez la carte postale ? C'est pas pour ça qu'on est là. Ce petit bout du monde est mondialement connu pour sa vague. Pas une vague, la vague. Une puissance incroyable. Elle peut monter jusqu'à plus de 10 mètres de haut, former un tube de 5 mètres de diamètre. Un spot mythique et aussi des plus dangereux quand la vague se creuse. Le récif est à quelques dizaines de centimètres de la planche des surfeurs. Il y a plus de 20 ans, en 2000, le Tahitien Brice Tairea est mort après avoir heurté le fond. Le spot a d'ailleurs été jugé trop dangereux et retiré en 2006 des circuits des championnats de surf féminin. Depuis 2022, il est de retour. Les femmes à nouveau ont le droit de surfer la vague. Une vague à la fois rêve et cauchemar des surfeurs. Donc, et le reste, c'est Margot Bédé avec Quentin Pommier qui raconte.
C'est sous sa maison sur Piloti qu'Adrien a rangé sa planche de surf. Une planche, aujourd'hui en deux morceaux.
Ça l'a vraiment mais plié en deux, quoi. Plié en deux. Elle a pas fait le poids face à la mâchoire.
La mâchoire, c'est le surnom ici de la vague de Teahupo. Avec son petit bateau en aluminium, Adrien s'y rend toutes les semaines.
J'ai eu peur surtout de toucher, de taper le récif parce que j'étais vraiment là où il n'y avait pas d'eau.
Sous la planche, le récif se tient parfois à moins de 50 cm. La chute peut être fatale. Le grondement s'intensifie, les rouleaux se forment en quelques secondes. Un souffle chargé d'eau de mer s'échappe des vagues qui s'écrasent. À une dizaine de mètres, des touristes dans des bateaux prennent en photo ce monument. Des jet skis sont là aussi en cas de problème. Adrien aperçoit dans l'eau son ami Massé.
Alors, ça traverse le récif ou quoi? Est-ce que ça valait le coup?
Non. Mais alors, je suis là depuis 6 heures ce matin et je me suis bien fait brasser. J'ai eu le droit à un ticket pour le lagon. Ça veut dire que j'ai eu le droit d'aller faire un tour dans le lagon pour réfléchir un peu. Et après, je suis revenu et voilà. C'est pas n'importe quelle vague et quand t'es dans le tube, t'es rien en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à tout moment, ça te remet bien à ta place. Donc savoir rester humble, je pense que c'est important. Là, je vais faire une petite pause tranquille, je pense que c'est bon pour moi là.
Au milieu de ces surfeurs, il y a une personne qui n'a pas de planche. C'est Léa Anne, photographe, qui plonge au cœur de la vague pour capturer les meilleures images.
Quand c'est des grosses conditions, nous on est sur l'épaule de la vague. Et quand c'est des conditions un peu plus petites, aux alentours de 2 mètres, 2 mètres 50, là on peut se mettre à l'intérieur du tube et faire des images. Et c'est sûr, être au cœur de la vague, c'est une énergie assez puissante.
Sur la plage, Temana regarde les rouleaux bleu turquoise à s'élever au-dessus de l'horizon. Depuis plusieurs mois, il s'aventure sur ce spot.
Moi, la première fois que je suis venu ici, c'est mes copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit de venir les accompagner pour une session de surf. Ils m'ont dit que c'était mignon, mais je crois qu'on n'avait pas la même définition de mignon.
L'un des copains est justement là, Matai Drolé, surfeur prodige en Polynésie. Alors c'est quoi une vague mignonne?
Une vague mignonne, c'est une vague comme tu peux jeter là.
2 mètres quoi?
Voilà, 2 mètres. 2m50, c'est toujours mignon. Ben, comparé à ce que ça peut être, ça peut atteindre les 10-15 mètres, là, c'est terrifiant, alors c'est plus mignon, quoi. Mais voilà, j'ai déjà cassé ma jambe, j'ai tapé le récif. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Tu vas pas défier cette vague et t'en sortir à chaque fois.
Fin juillet, pour les Jeux Olympiques, c'est ce monstre que les meilleures surfeuses et surfeurs du monde entier vont affronter. Les athlètes français pourront compter sur les conseils de leur manager Jérémy Flores, le seul français à avoir remporté une compétition à Tahupo.
Je pense qu'il y a un côté limite spirituel sur l'approche de cette vague-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à la gagner, c'est-à-dire que j'étais tellement connecté en fait avec la montagne, avec la mer, l'océan, les gens. Pour les Jeux Olympiques, je pense qu'il va falloir faire appel un peu à cette énergie. Et ça, j'en parle beaucoup avec les athlètes. Hein, et je pense qu'il y en a, pour eux, c'est naturel. Il y en a un peu moins. Mais c'est sûr qu'il va falloir passer du temps. Il va falloir respecter. Il va falloir aimer cette vague pour pouvoir faire quelque chose de grand. Quoi.
L'équipe de France pourra notamment miser sur 2 enfants du pays, Kaoli Vast et Eva Inefiero, qui surfent cette vague depuis leur plus tendre enfance.
Ah, la définition du mignon, dites-moi. Merci à Margot Bédé et à Quentin Pommier pour leur reportage. Demain, on fera encore du surf. Tiens, dans le reportage d'un jour dans le monde, vous verrez, mais d'un tout autre endroit. En attendant, l'actualité internationale passée sous les radars. Et Kevin Dufresne. Et Kevin, nous sommes d'abord en Malaisie, qui veut prêter ses grands singes.
Et pour ça, le pays va lancer une diplomatie des orangs-outans, rappelant ainsi celle du panda, menée depuis des décennies par la Chine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Plantations et des Matières Premières malaisien. Concrètement, cela voudrait dire que la Malaisie pourrait offrir ou prêter des orangs-outans à des pays étrangers, en particulier les principaux pays importateurs d'huile de palme comme l'Inde. Les orangs-outans sont en danger critique d'extinction en raison de l'exploitation des forêts pour la fabrication d'huile de palme utilisée dans les industries agroalimentaires et cosmétiques. Une exploitation qui détruit leur habitat naturel. La Malaisie montrera ainsi qu'elle est toujours engagée dans la préservation de la biodiversité, dit le ministre Ghani. Mais est-ce si vrai? Si elle a réussi à limiter la déforestation, la Malaisie continue à exploiter les forêts. C'est le deuxième producteur mondial d'huile de palme. Mais le gouvernement assure qu'il s'engage à préserver la durabilité des forêts et le ministre d'encourager les entreprises qui produisent de l'huile à travailler avec des ONG.
Et nous voici en Argentine où une tentative de vol se finit très mal.
Oui, 4 personnes ont été retrouvées mortes à Bahía Blanca, au sud de Buenos Aires. 4 corps dans un pick-up engagé juste avant cela dans une course-poursuite avec la police. Pick-up conduit par le père d'une des victimes qui, lui, est gravement blessé, brûlé parce que ces personnes sont mortes en tentant de voler des câbles électriques sur une ligne à haute tension. Elles présentaient des signes d'électrocution, a déclaré le chef de la police locale. Un fait divers qui illustre un vrai phénomène nouveau en Argentine. Les vols de câbles contenant notamment du cuivre sont en très forte augmentation ces derniers mois. Le métal volé est ainsi revendu au marché noir dans un pays où l'inflation atteint près de 300% et où 42% de la population est pauvre selon les chiffres de fin 2023.
Et puis nous sommes au Kenya avec une star du marathon très affectée.
Eliud Kipchoge, 39 ans, double champion olympique de la discipline. Il va d'ailleurs tenter de l'être une 3e fois d'affilée cet été à Paris. Dans une interview à la BBC diffusée hier, il se confie sur ce qu'il a vécu ces derniers mois. Une campagne de harcèlement en ligne, des menaces de mort même contre lui, contre sa famille. On va brûler ta maison, voilà le genre de message reçu par l'athlète kényan qui raconte que tout est parti de la mort en février dernier de Kelvin Kiptoum, étoile filante du marathon, mort à 24 ans dans un accident de la route. Et bien très vite, sur les réseaux sociaux, la rumeur se répand. Eliud Kipchoge est impliqué dans la mort de son jeune rival kényan, lui aussi, et qui a battu son record du monde du marathon de 35 secondes en octobre. S'ensuit donc un déchaînement de violence, y compris de la part de beaucoup de ses amis, dit Eliud Kipchoge. Je ne fais plus confiance à personne, même à ma propre ombre, dit-il. Aujourd'hui, il s'entraîne pour les Jeux dans la vallée du Rift, chez lui, au Kenya, bien loin des réseaux sociaux.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. En attendant, vous partez en passant par le Sénégal avec Ismaël Lo. Dibi Dibi Rek, c'est le titre. Merci de passer la soirée avec nous. Regardez avec Claude Guibal de quand dater cette chanson.
Et ça fait mal.
Ah là, elle a 30 ans. Et ouais, mais ça n'a pas pris une ride. Allez, le monde à 18h50, c'est maintenant.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Claude, nous allons en Égypte où Israël et le Hamas se rencontrent pour négocier un cessez-le-feu à Gaza. L'Égypte médiatrice, on le sait, dans ce conflit méprise entre le marteau et l'enclume.
Oui Fabienne, il faut vraiment s'imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un Égyptien ces jours-ci avec ce drapeau israélien qui flotte sur le poste frontière de Rafah, ces soldats de Tsahal dans le corridor de Philadelphie, c'est cette zone tampon entre Gaza et l'Égypte. Ben oui, pour l'Égypte, ce sont là des images très lourdes de symboles, parce que l'Égypte, c'est le premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël. C'était en 78 à Camp David. Et après ces accords, le reste du monde arabe a accusé l'Égypte d'avoir trahi les Palestiniens. Et le président égyptien, Anwar el-Sadat, l'a même payé de sa vie, puisqu'il a été assassiné 2 ans plus tard par les islamistes. Alors, avoir à nouveau l'armée israélienne à ses portes et les Palestiniens en désespoir, oui, ça rappelle quelque chose aux Égyptiens. Mais en fait, ce que l'Égypte craint, ce n'est pas tant l'armée israélienne que le risque d'une arrivée massive de Palestiniens sur son sol. Or, c'est bien ce que cherche à faire depuis le début Benjamin Netanyahou, en repoussant les populations vers le sud de Gaza. 1 200 000 personnes qui fuient vers Rafah, donc la porte de sortie vers l'Égypte.
Mais alors Claude, pourquoi est-ce que l'Égypte refuse à ce point la présence de Palestiniens sur son sol ?
En fait, c'est surtout une question de souveraineté, de sécurité, parce que le Sinaï, donc cette péninsule de l'autre côté de Rafah, est une zone extrêmement instable, avec la présence de groupes djihadistes, avec des populations bédouines aussi très marginalisées par l'État central, et l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés pourrait rendre toute cette zone incontrôlable. L'Égypte se souvient aussi de ce qui s'est passé en 2008 ici. C'était au début du blocus de Gaza et des militants du Hamas avaient dynamité la frontière entre les parties palestiniennes et égyptiennes de Rafah et des centaines de milliers de Palestiniens avaient d'un coup franchi la frontière pour aller chercher de quoi manger en Égypte et beaucoup en avaient profité pour se volatiliser et revivre ça, ça serait un cauchemar absolu pour le président Abdel Fattah el-Sissi.
Et alors pourtant un déferlement de Palestiniens, c'est pourtant ce qui risque de se produire.
Et c'est bien pourquoi l'Égypte, sans maudire, se prépare. En février, on l'a vu, des images satellites ont montré que l'Égypte était en train de niveler des terrains pour créer une zone environ 20 km², donc entourée de murs, juste de l'autre côté de Rafah. En fait, un cordon sanitaire dans lequel on pourrait parquer les Palestiniens pour les empêcher d'aller plus loin. C'est un des dossiers qui se joue en ce moment au Caire. Un accord pour l'accueil d'un nombre limité de réfugiés, on parle de 50 à 100 000 personnes. Alors oui, l'Égypte n'en veut pas, mais les pressions sont grandes, le pays est totalement étouffé par les dettes, vraiment au bord du gouffre financier, et le Caire pourrait chercher à faire monter les enchères pour obtenir des contreparties, des aides ou l'annulation de tout ou partie de son ardoise par les pays du Golfe, les États-Unis, comme ça avait été le cas en 91 lorsque les Américains avaient effacé des dettes pour convaincre le président de l'époque Hosni Moubarak de rejoindre la coalition pour l'intervention militaire en Irak.
Claude Guibal, merci beaucoup. On se retrouve demain. Oui, c'est ça. Vous serez là demain. Je m'en perds un peu.
Fabienne, mais s'il vous plaît.
Je vous en prie. Youpi. Le cinéma en VO, c'est le mercredi et c'est Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
Are you familiar with the concept of evolution?
Corinne, c'est l'une des sagas les plus cultes du cinéma américain, c'est l'une des plus vieilles aussi. La planète des singes est donc de retour sur les écrans avec Le Nouveau Royaume. 10e adaptation du roman de Pierre Boulle, qu'Hollywood a visiblement su rentabiliser. Faire du neuf avec du vieux, vous nous dites que c'est possible avec une histoire qui nous emmène cette fois en 2328.
Ouais, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Le résultat au niveau des effets, des décors est assez spectaculaire, avec des scènes tournées essentiellement en milieu naturel, loin des studios, par l'américain Wes Ball. C'est le dernier réalisateur embarqué sur la saga, avec l'envie de nous surprendre. Dans son approche, en mode action-aventure, dans ses thématiques, elle aussi plus moderne, ça a toujours été l'un des points forts de la saga adaptée du roman de Pierre Boulle, nous éclairer sur notre époque. En 68, dans le premier film avec Charlton Heston, c'était la métaphore de la guerre froide. Aujourd'hui, Wes Ball, on l'attendait plutôt sur des questions de complotisme, de chaos, on ne sera pas déçus. L'action se déroule 300 ans après la mort de César qui a conduit les singes à la victoire. Il est devenu un mythe, vénéré, utilisé par tous, pour le meilleur et pour le pire.
J'aimais l'idée de garder l'image du personnage de César et de l'utiliser comme une référence. Voir comment la nouvelle génération s'était emparée de sa figure et de son héritage. C'est un film qui tourne beaucoup autour des thèmes du savoir et de la vérité. Comment on utilise nos connaissances, comment on les déforme, on les dissimule pour soutenir une idée. Avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, la vérité est un concept très malmené en ce moment. Elle est fragile. Et c'est là-dessus que nous voulions insister. Et on n'a pas eu besoin d'en faire des caisses avec des métaphores. Le monde qui nous entoure est une grande source d'inspiration. Il n'y a qu'à retranscrire ce que l'on voit en imaginant que ça se déroule dans un peu plus de 1000 ans. Peut-être qu'en connaissant mieux leur histoire, les gens, à terme, seront moins enclins à répéter les erreurs du passé.
Legend says, ape and human lived side by side. Impossible as that may seem.
Bon, et alors Corinne, il raconte quoi ce dixième volet? Est-ce qu'on va un jour raccrocher les wagons avec l'histoire d'origine?
Alors, il faudrait être un peu patient, hein, parce qu'on est aujourd'hui dans le film en 2328 et l'histoire d'origine se déroule encore bien plus tard, en 3973. Mais il a des idées, Wes Ball, si on le laisse faire, il aimerait bien, oui, reconstituer toute la timeline. Le film qui sort aujourd'hui, il a toujours rêvé de le faire, il s'était même positionné pour le volet précédent. Pour lui, c'est un peu comme une madeleine.
Je me souviens de la première fois où je l'ai vu, j'étais encore enfant. C'était la version de 68. Et j'ai gardé longtemps en moi cette image de Charlton Heston sur la plage avec les chevaux et la statue de la liberté ensablée. Ce plan est complètement obsédant et ne m'a jamais quitté. Et la force du film, c'est qu'il interroge votre humanité. Il vous met au défi de vous dépasser et vous oblige à réfléchir. Et en même temps, c'est du grand spectacle, avec les meilleurs effets que vous pourrez voir au cinéma, les meilleurs maquillages, les meilleurs décors. C'est du divertissement et c'est en même temps très profond.
You know, sort of profound and deep in its kind of ideas, you know.
Apes hunt humans. That is wrong.
Voilà, ce nouveau royaume n'est donc ni un reboot, ni un spin-off, ni une relecture, simplement la suite de la précédente trilogie démarrée en 2010. Des hommes dans un labo qui, en travaillant sur Alzheimer, ont conçu un virus et anéanti la moitié de la planète, mais rendu les singes intelligents. Depuis, eh bien, c'est la guerre, avec ici un nouveau méchant chez les singes, encore plus puissant que César, qui s'apprête à s'emparer d'armes très dangereuses inventées par les humains et restées cachées pendant 300 ans.
C'est la planète des singes, le nouveau royaume au cinéma ce mercredi. Corinne Pélissier, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y aura le téléphone sonne. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Fabienne.
Rédactrice en chef du 18-20. Ce soir, nous aussi, on relaie la flamme puisqu'elle arrive chez nous.
Et oui, et suspense, qui va allumer le chaudron dans le port de Marseille une fois la flamme qui aura quitté le Belém, qui a paradé toute la journée au large de la cité phocéenne. Alors, est-ce que ce sera le nageur Florent Manodou ou est-ce qu'un autre invité mystère prendra le relais? Eh bien, réponse en direct dans le téléphone sonne. Mais plus encore, on a envie de partager avec vous ce soir si cette flamme qui va faire le tour du pays pendant 69 jours va allumer le feu olympique dans le cœur des Français. Vous serez 10 000 à la portée dans tout le pays jusqu'à Paris. Gervais se demande d'ailleurs combien tout ça va coûter. Antoine de Lyon espère que ces JO 2024 donneront plus de visibilité aux épreuves paralympiques. Bref, les JO, est-ce que ça vous met tout feu tout flamme?
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous et c'est le même numéro pour vos messages sur WhatsApp. À tout de suite.